m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Il est né en 1975 dans les pages du journal Tintin, les traits burinés, les yeux bleus, les cheveux bouclés flottant au vent. On l'a vu sauter dans le vide, les bras en croix sur fond de ciel azuréen et de blancs sommets himalayens. Un voyageur contemplatif, pas très bavard, mais avide de paysages grandioses, de rencontres humaines et de spiritualité, à la recherche de l'autre, mais aussi sans doute de lui-même. Son nom, Jonathan ou Jonathan, comme Livingstone le goéland, créé par Escherbach, son créateur à lui. Il est suisse, il s'appelle Cosé. Au départ, il pensait que Jonathan ne ferait que passer. 46 ans et 17 albums plus tard, le même Cosé, qui entre-temps a été couronné Grand Prix de la ville d'Angoulême en 2017, lui invente un dernier voyage comme une nouvelle leçon de vie, la piste de Yéché. Le dernier album de Jonathan est paru aux éditions du Lombard. Cosé, qui sort aussi un artbook, à l'heure où les dieux dorment encore, aux éditions Daniel Maguen, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Cosé.
Bonjour.
Alors cette fois, ça y est, c'est le dernier Jonathan.
Mais oui, il y a donc tout. Bonne chose à une fin.
C'est pas la première fois que vous nous faites le coup, quoi. C'est un moment aussi. Alors, on pensait que c'était terminé.
J'ai fait un peu comme ces vieux chanteurs qui reviennent chaque année faire leurs adieux au public. Mais oui, j'avais prétendu que le 16e album était le dernier, avec toutefois une petite réserve. Je soupçonnais qu'il pouvait y avoir encore quelque chose. Et en relisant le tout premier album, qui s'intitulait Souviens-toi de Jonathan, j'ai trouvé l'idée qui fait que c'est vraiment une fin, une conclusion, une boucle, qui m'a plu, et donc voilà le tout dernier et 17e Jonathan.
Mais alors pourquoi arrêter tout court et pourquoi arrêter maintenant ?
Alors moi je suis lecteur de bande dessinée aussi, je ne fais pas que dessiner.
J'imagine.
Et ces séries qui durent 50 titres, 50 albums, moi, je trouve ça un peu, ça me fatigue, et j'avais plutôt envie d'offrir une conclusion. C'est une histoire qui a débuté, logiquement elle devrait avoir une fin, et la voilà.
Oui, mais pourquoi maintenant ? Parce que vous auriez pu attendre encore quelques années. Pourquoi ? Oui, est-ce que vous avez pensé que c'était un bon moment ? Il y a un moment déclencheur ?
Alors, il y a deux éléments. D'abord, j'avais l'impression que j'allais me répéter de plus en plus avec ce personnage. Et puis, j'ai trouvé... Oui, en relisant ce tout premier album, il y avait un élément dans le... En fait, je racontais que Jonathan était un ami qui était parti au Tibet. Et cette idée-là de ce personnage ami... m'a frappé, je me suis dit, mais voilà, à la fin, je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'il faut quand même...
Non, il ne faut pas trop divulgâcher, comme
non,
on dit en français.
D'accord, ne divulgâchons voilà. Pas trop.
Bon, alors, mais... regardons un petit peu dans le rétroviseur, alors. Hein. Donc, il a 46 ans, ce personnage, il est né, je le disais, sous votre crayon en 75, dans les pages du journal Tintin. Alors, c'est un peu une période charnière pour la BD, parce qu'avant, il y avait beaucoup de BD d'humour, avec des personnages, avec des gros nez, comme on disait, c'était vraiment une vraie mode en matière de BD. Et là, à ce moment-là... La BD commence à changer, s'oriente vers quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Est-ce que vous, à ce moment-là, à Cosé, vous vouliez justement vous lancer dans une BD plus réaliste que ce qui existait à l'époque ?
Alors, il y avait effectivement un nouveau style, une nouvelle école qui provenait en partie de l'underground américain, avec les Freak Brothers, par exemple, ou tout ce qu'a fait Crumb. Et il y avait en France, il y avait le journal Pilote, avec plein de choses. Mais c'était une très belle alternative à la bande dessinée belgo-française, et les gros nez, etc., ou les héros. Mais moi, je me sentais à l'aise dans aucune de ces catégories. J'avais envie de faire un personnage qui soit peut-être plus proche de nous-mêmes. Et donc, j'ai parlé de ce qui m'intéressait. Il y avait le Tibet, il y avait un phénomène que je trouvais très intéressant, qui est l'amnésie, puisque Jonathan, dans le premier album, est amnésique. Et voilà, j'ai travaillé dans ce sens-là, hors catégorie.
Alors, il a plutôt un petit nez, pour le coup, hein. Jonathan. Quand on crée un personnage, on pense d'abord, évidemment, à qui il est, on pense à sa personnalité, et puis, comme on est en BD, on pense aussi à sa personnalité graphique. Alors, clairement, Cosé, est-ce que pour dessiner Jonathan, vous êtes regardé dans le miroir ?
Oui, je l'avoue. J'espère que vous ne m'en voulez pas.
Non,
mais,
pas du tout.
Mais voilà, comment dessiner un personnage dans un style relativement réaliste ? C'est pas non plus de l'hyper-réalisme.
Bon.
Et pourquoi pas, quand on veut dessiner un personnage, on peut dessiner par exemple sa propre main pour la main du personnage, etc. Et pourquoi pas le visage ? Donc je l'ai donné... certaines de mes caractéristiques, mais c'est pas non plus...
Vos yeux, quand même, les cheveux.
Les cheveux, la tignasse.
La tignasse,
voilà. La tignasse. Mais voilà, ça s'arrête un peu là. Mais, sauf que, Non, c'est pas vrai, ça s'arrête pas là, parce qu'il y a aussi le caractère.
Voilà.
Alors, là aussi, j'ai sélectionné les éléments qui me paraissaient les plus intéressants, mais je me suis quand même bien impliqué, j'ai essayé de parler de ce que je ressentais aussi.
Bon, vous n'étiez pas amnésique à l'époque, hein, ça c'est de la pure fiction.
Mais ça, on n'en sait rien. Comment pourrait-on savoir ce qu'on a oublié ?
Vous vous en souvenez pas ? Oui, d'accord.
Je ne me souviens pas de ce que j'ai oublié.
Voilà, oui, comme quoi, oui, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, en plus, un amnésique qui avait quand même subi, je crois, des électrochocs avant de s'enfuir de sa clinique psychiatrique et qui espère donc, hein, c'est la thématique du premier album, qui espère donc retrouver sa mémoire en prenant les chemins du Népal et du Tibet. Bon, c'est un peu l'époque Peace and Love, les chemins de Katmandou, hein.
Oui.
Vous surfiez un petit peu là-dessus, vous étiez sensible justement à cette recherche-là.
Oui, j'étais sensible à ça, et puis aux traditions d'Asie, aux bouddhistes tibétains, à toute cette recherche qui existe toujours, qui intéresse, je crois, beaucoup de gens, finalement. C'est pas... Alors c'était relativement exceptionnel dans la bande dessinée, mais ça l'est devenu un peu moins, en tout cas... J'avais envie de parler de ce sujet qui m'intéresse.
Donc le Tibet, c'est pour cette raison-là, parce que certains ont dit « Ah oui, mais c'est aussi parce que il y avait Tintin au Tibet, un album qui vous avait particulièrement marqué, c'est vrai ?»
Absolument, c'est mon album de Tintin préféré, mais il y avait eu la lecture d'Alexandra David-Neil, de plein de bouquins de voyageurs, ou de gens qui font des recherches plus intérieures, on pourrait dire. Et tout ça, ça a nourri mon imagination, je pense, ce qui a donné cette série Jonathan.
Alors, Alexandra David-Neil, donc grande photographe, évidemment. Vous êtes inspiré, justement, des photos du Tibet, donc des paysages et des Tibétains eux-mêmes pour nourrir votre album, votre premier album?
Complètement. Mais ma chance, finalement, c'est qu'il y avait très peu de photos, très peu de documents. Et donc, je suis arrivé très vite à court de documentation, parce que très souvent, les auteurs de bande dessinée travail d'après documentation.
Voilà, c'est des rats de bibliothèque ou des rats d'internet aujourd'hui, hein.
Oui, exactement. Et là, il y avait tellement peu de choses. J'avais fait le tour de tout ce qu'on pouvait trouver de photos du Tibet en 2-3 albums. Et heureusement, à ce moment-là, j'ai appris que le Ladakh, qui était un petit royaume tibétain annexé à l'Inde sous protectorat indien, ce qui fait qu'il n'avait pas été envahi par la Chine, ce qui est le cas du Tibet. Le Ladakh ouvrait ses portes, c'est-à-dire la route allant de Srinagar à Leh était ouverte aux voyageurs. Donc je suis parti faire mes premiers documents.
Et donc, vous avez trouvé là-bas ce que vous escomptiez ou bien vous avez été surpris lorsque vous êtes arrivé sur place pour ce premier voyage?
J'ai été surpris, mais en bien. Je me suis régalé. En plus, il y a eu un coup de chance, c'est que le Dalai Lama, pour la première fois, retournait au Ladakh depuis 1950, depuis l'invasion chinoise. Et donc, ça voulait dire qu'il y avait plein de gens, de populations, de Tibétains qui venaient de tous les coins du Tibet, qui était un pays énorme, c'est quasiment un continent en surface. Et donc, c'était coloré, des gens en costume et tout. Et ouais, ça a été une chance magnifique, à tel point que c'est devenu presque une méthode de travail pour moi d'aller chercher mes documents à partir de là.
Mais vous répondez toujours graphique, vous répondez image, là, justement, à la première chose qui vous vient à l'esprit. On voit effectivement le dessinateur que vous êtes. Quelle est la première image du Ladakh qui vous vient comme ça à l'esprit quand vous remontez à vos souvenirs de 76?
Alors, la découverte, elle était progressive puisqu'il s'agissait de monter dans un bus depuis Srinagar au Cachemire, passer... peut-être que c'est... Mulbek, c'est le premier endroit bouddhiste tibétain sur la route de Srinagar à Leh, parce que Srinagar fait partie de l'Inde musulmane, principalement. Et donc, c'était la première halte bouddhiste avec un très grand Bouddha, sculpté dans le rocher, avec tout ce dont j'avais rêvé, vu en photo, qui existait, qui était bien réel, et aujourd'hui, parce que les photos d'Alexandra David-Neil dataient de 50 ans plus tôt ou plus.
Oui, c'est vrai que vous avez vous-même construit votre petit temple bouddhique dans votre jardin ou c'est des gens d'urbaine, ça, causé?
Non, c'est vrai, mais c'était pas spécialement bouddhiste, c'était une espèce de je sais pas quoi, un endroit où j'aimais bien aller me recueillir, ouais.
Et vous imprégniez des mantras
Non, je connaissais pas encore ça, j'étais gamin, mais c'était un... un jeu comme un autre.
Bon, en tout cas, la spiritualité rayonne en tout cas dans les 17 tomes de Jonathan, qui raconte une quête intime mais aussi spirituelle, et une grande partie de l'histoire de cet ultime récit se passe d'ailleurs dans un gompa, c'est-à-dire un monastère bouddhiste, hein, le gompa de Yeshe. Il existe réellement ?
Alors il existe réellement, mais enfin pour les besoins de la fiction, j'ai préféré le dénommé ou le surnommé Yeshe, justement. Alors, en réalité, il n'y a pas de secret. C'est un monastère au Ladakh qui s'appelle Chemre et dans lequel j'ai eu la chance de loger. C'est quelque chose qui est courant au Japon, par exemple. Certains monastères ont une aile du bâtiment ou un petit bâtiment qui permet d'accueillir des visiteurs ou des pèlerins. Au Ladakh, au Tibet, c'est plutôt rare. Et là, j'ai pu, grâce à des bonnes relations, y loger, partager la cellule d'un moine. Enfin, on avait chacun notre petite cellule.
Oui, donc comme Jonathan dans l'album.
Exactement, et je trouve que c'est génial. Pour moi, la doc, c'est pas forcément aller chercher des éléments historiques essentiels, c'est justement des petites choses comme ça qui m'intéressent autant que l'invasion de la Terre par des aliens.
Mais alors pourquoi est-ce que vous l'avez rebaptisé ? Pourquoi ce nom de Yeshe ?
Mais pour me sentir libre de dessiner, parce qu'après, lorsque vous nommez, que vous situez vraiment un sujet, il faut être cohérent, il faut être réaliste, alors on peut plus, pour raconter une fiction, c'est trop limitatif. Donc visuellement, c'est à peu près Tim Ray, mais je me suis permis justement des exceptions. Il peut y avoir une scène qui, en réalité, telle que je l'ai dessinée, provient d'un autre monastère. Mais finalement, le lecteur s'en fiche.
Mais le nom de Yeshe, vous ne l'avez pas choisi complètement au hasard.
Non, le nom Yeshe fait allusion à la sagesse tibétaine.
Alors on le découvre, hein, ce monastère, sur la couverture de cet ultime album de Jonathan. Est-ce que vous pouvez nous décrire la couverture que c'est ?
Bon, c'est cette architecture typiquement tibétaine qui est très sobre. Hein, c'est des petits cubes blancs ou plus ou moins blancs qui s'agglutinent, qui s'agrippent à une colline jusqu'à monter à son sommet où se trouve généralement le temple. C'est très sobre, encore une fois. Ça rappelle un petit peu l'architecture des Cyclades. Et puis,
en Grèce, oui.
En Grèce, bien sûr, ces îles grecques dans la mer Égée. Et ce qui est frappant, c'est qu'au contraire de l'extérieur, qui est très simple, l'intérieur foisonne de détails, de dorures, d'enluminures, de peintures partout. C'est un contraste qui est frappant, ouais. Et je trouve très beau.
Et donc, il est au centre de la couverture, hein, ce monastère. Il se détache à la fois de la montagne et du ciel bleu. On va revenir sur le bleu tout à l'heure, hein, qui est vraiment très très présent aussi dans cet album. Et juste à côté, on découvre le visage de Jonathan, et on le découvre dans le rétroviseur de sa moto. Alors, on sait que Jonathan, c'est à la fois un marcheur et un motard. Il a eu plusieurs montures, hein, au cours de ses aventures. Bon. Il a un petit peu vieilli, Jonathan.
Oui. Oui, mais moins que nous.
En tout cas,
moins
que finalement, moi. Finalement, oui.
Mais lui, alors, Jonathan, j'aime bien dire qu'il est un peu le contraire des chiens. Il vieillit 7 fois plus lentement que nous.
Voilà, ce qui est une vraie chance.
On peut dire ça.
Voilà, et l'album s'ouvre sur les mots, non pas sur les mots de Jonathan, mais sur les mots d'une femme. Nous sommes à la page 5.
Commençons par le passé. Mon Pala et mon Akula partageaient un commerce de marchandises. Mon Pala tenait son comptoir à Chamdo et mon Akula à Gangtok. Au printemps, dès que l'école était ouverte, chacun apportait ses marchandises invendues à Lhasa, où ils cohabitaient tout l'été en vendant leurs articles. En automne, avant la neige, chacun retournait chez soi en emportant les marchandises apportées par l'autre qui n'avaient pas été vendues.
À moi, dans le passé, parmi les diverses particularités de la société tibétaine, la polyandrie était largement répandue. Lorsqu'une jeune fille se mariait, elle épousait souvent les frères de son mari.
Sous réserve de bonne entente.
Le présent maintenant. Maman se contente d'un seul homme, notre Pala. Mais il est tolérant, il accepte qu'elle disparaisse 6 mois par année.
C'est parce que ces voyages contribuent à la sauvegarde de notre patrimoine. Et comme ça, on ne l'a pas toute l'année sur le dos. Hihi. Le futur. Moi, j'épouserai un homme qui aura 6 frères, ainsi j'aurai 7 maris, un pour chaque jour de la semaine.
7 maris, ce n'est pas une famille, c'est un régiment.
Oui, et ils m'obéiront au doigt et à l'œil.
Alors on peut dire, Cosé, qui est cette maman? Qui sont ces deux fillettes que l'on voit dans cette première scène ?
Alors, on va dévoiler un secret. Mais oui, pour les lecteurs qui connaissent les titres précédents, il s'agit de Drolma. C'est une enfant sauvage qui était un peu la fille adoptive de mon personnage Jonathan et qui est là, qui dialogue avec sa fille. Et c'est vrai, c'est une tradition tibétaine, la polyandrie. Il y a d'autres façons de vivre l'amour que notre concept à nous.
Alors drôlement, on la connaît bien, les lecteurs qui vous suivent l'ont déjà rencontrée dans vos pages. Alors elle aussi, forcément, elle a pris quelques années. Vous avez eu comme ça envie de la retrouver, de lui redonner, oui. De lui offrir à nouveau une
destinée. Oui, je trouvais que c'était, avec Jonathan. Il y avait quelque chose d'inachevé, on ne savait pas. Parfois, les lecteurs me demandaient, mais alors drôlement, qu'est-ce qu'elle devient? Et je savais que c'était inachevé. Jusqu'à ce que je trouve cette formule-là pour ce dernier album.
Avec... Voilà, donc une enfant aux pieds nus, hein, que Jonathan avait pris sous son aile dans le troisième album, qui s'appelait, oui. Je crois, Pieds nus sous les rhododendrons. Oui. Elle a fait du chemin, hein, maintenant, elle a pris un peu de bouteille, un peu d'assurance. Elle s'occupe toujours de culture tibétaine, on va pas en dire trop non plus causer. Et Drolma, donc, donne rendez-vous à Jonathan, à cette Gompa de Yeshe, il s'y rend. Alors, il arrive en juin, et quand il arrive, elle est pas là. Mais c'est pas grave, parce que Jonathan, il est pas du genre à repartir vexé, furieux, quoi. Il a le temps, il va l'attendre pendant de longues semaines, même pendant de longs mois, et il va mettre à profit cette attente pour méditer, pour étudier, pour peindre des mandalas, pour livrer des repas. Il va le faire sous la conduite de ce moine que vous avez déjà cité tout à l'heure, le moine Shamba, dont il partage la cellule. Donc ce moine, il existe réellement. C'est le personnage réel que vous avez décalqué.
Complètement. Oui, sauf que les scènes évidemment sont différentes puisque moi je raconte une fiction, mais elle repose sur mon expérience. Oui, j'ai cohabité avec ce moine. Pendant quelques jours, en réalité. Mais ça m'a permis de voir ce côté vie quotidienne dont on parle très peu. Il y a plein de bouquins sur le bouddhisme tibétain qui sont passionnants, pour la plupart d'entre eux. Mais ça m'amusait de raconter le quotidien, vraiment, les petits détails.
Et vous avez, comme Jonathan, peint aussi des mandalas
Non,
pas jusque-là.
Je me contente des bandes dessinées.
C'est déjà pas mal.
Oui.
Mais l'un n'empêche pas l'autre.
Eh bien, on va y réfléchir.
Voilà, va y réfléchir. En tout cas, on croise donc ce moine tibétain, on croise Drolma, on croise aussi d'autres personnages importants de la saga, parfois de façon très très fugace, hein, un caméo, comme on dit au cinéma. C'est une façon comme ça de dire au revoir, puisque c'est l'ultime album de la série, à tous ces personnages qui ont jalonné le parcours de Jonathan.
C'est exactement ça. J'avais envie que certains, parce qu'il y a beaucoup de personnages sur 17 albums, que certains personnages viennent nous dire au revoir, comme au théâtre, hein, les acteurs qui viennent saluer le public. Certains, quand c'est une tragédie, certains, ils ont encore un couteau planté dans le dos, mais ils viennent quand même nous saluer.
Oui, certains et surtout certaines, hein, en l'occurrence. Hein. Il y a quand même beaucoup de personnages féminins que vous avez choisi
de
reprendre.
Tout à fait. Mais oui, mais Jonathan est quelqu'un qui recherche beaucoup de choses, y compris l'amour. Et donc, il y a eu des rencontres et j'aurais pas voulu clore cette série sans mentionner Kate, qui a été quand même un album important.
Voilà, Kate, c'est l'amie américaine. Hein.
Voilà, l'amie américaine, tout à fait.
Et puis, il y a cette figure de Saisha qui est toujours là, qui est même en filigrane, quoi, mais elle est toujours présente dans tous les albums.
Elle a été le déclencheur de cette série, sans savoir que ça deviendrait une série. C'était le premier album, Souviens-toi de Jonathan, avec Saisha qui était ce personnage principal. Et oui, je trouve... Il fallait qu'ils viennent nous dire au revoir.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec l'auteur de bande dessinée Bernard Causet, alors au départ, et on retrouve le texte hein, d'ailleurs au début de ce dernier album, vous avez présenté Jonathan comme un ami à vous, hein, et au fil des albums, le lecteur a pu découvrir des lettres au cœur même du récit, hein, des lettres pseudo-échangées, on va dire, avec un ami qui signe C. C'est comme Causet, évidemment. Vous avez aussi expliqué que cette saga, c'était votre autobiographie imaginaire. Et vous dire que la fin de l'album va peut-être un petit peu dans ce sens-là, en fait. Est-ce que les interrogations, est-ce que les états d'âme de Jonathan sont en fait celles de Bernard Causet?
Complètement. J'ai pas vécu tout ce qu'il vit. Mais oui, les états d'âme, je parle de mes sentiments, de ce que je ressens. Et c'est typiquement la nourriture, les éléments de cette série.
Et donc, comme Jonathan, vous avez à la fois ces interrogations, ces inquiétudes et cette sérénité. C'est étonnant d'ailleurs de conjuguer les deux dans la même phrase, dans la même vie et presque dans les mêmes moments.
Moi, je dirais plutôt cette recherche de sérénité, parce qu'elle n'est pas du tout acquise, mais il se peut qu'elle apparaisse comme chez tout le monde, comme chez vous. Oui, mais c'est une vraie recherche de sérénité, oui.
Mais l'important, c'est de chercher ou l'important, c'est de trouver?
Eh bien, je cherche avec l'espoir de trouver, donc je pense que cette sérénité, elle est là, mais on la voit, parfois on a de la peine à la voir, donc on la cherche sans savoir qu'elle est là. Il y a une citation d'un Indien qui s'appelle Ramana Maharshi, rien à voir avec le gourou des Beatles, bien que leur nom se ressemble, qui dit « le chercheur en spiritualité, ressemble à un poisson dans l'eau qui a soif. » Poisson qui a soif dans l'eau.
Voilà, et donc vous avez toujours soif.
Toujours soif, en vivant dans l'eau.
Bernard Cosset, quand vous voyagez, vous avez, comme Jonathan, toujours des carnets sur vous.
Ah oui, bien sûr. Oui, pour faire des croquis, pour le plaisir, un appareil photo pour une documentation plus précise. Dans le carnet, il y a aussi des notes, des choses que j'observe ou auxquelles je pense. Et tout ça, ça constitue un matériau dans lequel je vais aller puiser, pas immédiatement, mais avec un peu de recul.
Plus tard, quand vous êtes de retour dans votre atelier et vous papillonnez un petit peu à l'intérieur de ces carnets, de ces notes, et vous vous dites j'invente une histoire, ou bien ce sont les personnages même qui viennent vous prendre par la main et qui viennent prendre votre crayon pour la dessiner, cette histoire?
Dans le meilleur des cas, c'est eux qui viennent me chercher, mais c'est vrai que je feuillette ces notes et il y a certains éléments qui, entre-temps, se sont un peu... ont perdu de leur force, que j'écarte, et d'autres qui prennent de plus en plus d'importance, avec lesquels j'essaye de travailler.
Alors, on ne va pas révéler, évidemment, tous les éléments qu'il y a dans cet album. Il y en a énormément, parce que, comme dans tous les albums de Jonathan, il y est question, je le disais, de spiritualité, mais il y a des références à la gastronomie aussi, on découvre des petites spécialités comme ça tibétaines au détour d'une case. Et puis il y a aussi tout ce qui participe de la vie quotidienne et de la culture du Tibet d'une façon générale, pas seulement du Tibet, parce que Jonathan n'est pas seulement allé au Tibet, on va y en parler tout à l'heure. Mais par exemple dans cet album, il y a le Lion des Neiges. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, sans tout déflorer évidemment, de ce Lion des Neiges?
Alors là, à cette heure-là du matin, c'est pas facile du tout, mais c'est un animal mythologique, bien sûr, il n'y a pas de lion au Tibet, qui provient des deux cultures qui ont nourri le Tibet, qui sont l'Inde et la Chine. Alors, il s'agit d'une Chine traditionnelle, d'avant Mao, et ce Lion des Neiges, qui est chanté par des poètes tibétains comme Milarepa, le plus connu par exemple, représente ce qu'on appelle la joie inconditionnelle, qui est donc une joie profonde, qui ne provient d'aucune cause, elle n'a pas de raison, elle est sans condition, elle est constamment présente, comme cette eau dans laquelle un poisson nage en ayant soif.
Vous maîtrisez donc au minimum les histoires, la culture, les légendes, les croyances, la spiritualité tibétaine. Est-ce que vous en maîtrisez aussi l'écriture, Cosset? Parce qu'il y a de l'écriture tibétaine dans cet album, sur les pages 15 et 16, notamment des lettres, des lettres tibétaines.
Alors j'y comprends rien du tout.
Vous comprenez rien.
J'ai les recopies. Comment faire un dessin d'observation? On dessine n'importe quel sujet, un personnage, en observant. J'observe ces lettres et je les recopie, mais j'ai des traductions sous les yeux, je sais de quoi il s'agit, c'est des prières tibétaines. Mais je les reproduis comme des motifs abstraits.
C'est-à-dire que c'est leur caractère graphique qui vous intéresse au-delà du sens que...
Absolument, pour évoquer comme sur une bande son, vous allez passer ces chants religieux tibétains, vous les comprenez pas, mais ça donne une ambiance. Donc là, l'ambiance, elle est visuelle.
Mais vous parlez un minimum de mots tibétains. Vous avez dû apprendre la base quand même avec le temps.
12 ou 13 ou 14 mots, voilà. pas davantage.
Bon, Jonathan, lui, il a pas de problème de traduction, il a pas d'interprète, lui.
Alors, très souvent, particulièrement chez les moines, il y a quand même une possibilité de parler anglais, ou en tout cas quelques mots. Et puis on se comprend très bien en voyage, avec les gestes, les yeux. Parfois même je fais un petit croquis, un petit dessin rapide. Ce que tout le monde peut faire, il n'y a pas besoin d'être dessinateur pour dessiner, un train, une locomotive pour chercher la gare, ou bien un bol pour du thé.
Thoughts and flames are passing by. They mean a trip to Paris or Rome for someone else, but not for me. The trains and the boats and planes took you away from me. We were so in love and high above. We had a star to wish upon wish, and dreams come true, but not for me. The trains and the boats and planes took you away, away from me. And the boats and planes will bring you back, back home to me.
Trains and Boats and Planes, la voix de Dionne Warwick dans VMDN sur RFI avec Causé pour l'ultime album de Jonathan, La Piste de Yéché aux éditions du Lombard. Et cette chanson, c'est la première de la liste des quatre chansons que vous recommandez aux lecteurs d'écouter en lisant l'album. La liste figure sur la quatrième de couverture. C'est une habitude chez vous. C'est pas nouveau, ça. Ce sont les musiques qui vous ont accompagné pendant l'écriture?
Surtout pendant le scénario, parce que la réalisation d'un album, c'est un an et demi, voire deux ans, donc j'écoute aussi d'autres choses. Mais c'est Jonathan qui dit, installé dans son monastère, qu'il y a un avion de ligne qui passe tous les matins. C'est du vécu, ça. Au-dessus du monastère, bien que ce monastère soit perdu au milieu de l'Himalaya, et ça lui fait penser à Kate, qui disait on oublie toujours les compositeurs, on connaît les chansons, les interprètes, mais on oublie les compositeurs. Et je suis d'accord avec elle, c'est l'essentiel finalement. Et alors, on va pas ne pas mentionner que cette musique a été créée par Burt Bacharach.
La musique, est-ce qu'elle aide les images à apparaître sous votre crayon, Causé?
Absolument. C'est une façon, dans l'écriture de scénario, pour moi, de peut-être de calmer les pensées parasites pour me concentrer sur l'imagination d'une histoire.
Alors le dessin, justement, on va en parler, notamment de ces couleurs qui sont très présentes dans cet album, mais aussi dans beaucoup d'autres, que sont les bleus et les ocres. Hein, on va utiliser vraiment le pluriel. Pourquoi leur donnez-vous autant d'importance, à ces deux teintes-là?
Alors ça, pour moi, c'est des affinités qu'il est très difficile d'expliquer. D'autres personnes vous diront les rouges et les verts. C'est effectivement des couleurs dans lesquelles je me sens très à l'aise, mais pour moi, ce qui est encore plus important... Alors, j'essaye d'élargir ma palette, mais c'est très difficile. Mais le plus important, pour moi, c'est l'accord entre les couleurs qui se voisinent, donc quel bleu avec quel ocre, ou quel rouge avec quel vert, parce qu'on a tendance à dire les couleurs, les goûts et des couleurs, c'est personnel. Oui, bien sûr, mais ce qui fait que c'est réussi ou non, c'est justement l'accord entre des couleurs voisines, et c'est ce que je cherche à travailler.
Mais les couleurs participent aussi à la narration.
Alors, elles soutiennent la narration, elles peuvent aider à la lecture. Par exemple, dans une scène de nuit où on est dans des bleus sombres, suivie par une scène de jour plus lumineuse, plus jaune, et effectivement, ça participe à la compréhension.
Alors, je ne sais plus dans quel album il y avait cette neige qui avait marqué une neige extrêmement blanche, et on la retrouve aussi dans celui-ci. Alors, c'est vraiment très, très étonnant, ce blanc qui est vraiment... Enfin, difficile à décrire, mais il faut vraiment aller regarder les albums. On a presque l'impression que Que vous avez rien mis, en fait. Que vous avez laissé la page blanche que vous avez fait. Expliquez-nous comment vous avez fait ce blanc, si tant est que vous l'avez fait, d'ailleurs.
C'est exactement ça. C'est que je ne l'ai pas fait. Je n'y touche pas. Dans la mesure où on se trouve sur du papier blanc. Et donc, c'est le lecteur qui voit de la neige. J'essaie toujours de faire participer le lecteur, de lui donner un travail inachevé pour qu'il le complète, mais spontanément.
C'est ça, la poésie.
Eh bien, c'est possible. Et là, je dessine donc le sapin, le rocher, le yak ou le skieur, et le papier blanc.
Voilà. Et le lecteur fait le reste. Et
le lecteur fait tout le boulot, la moitié du boulot. Mmh.
Alors, vous avez, je crois, une formation de graphiste au début. Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que ça vous est toujours utile?
Oui, oui, beaucoup. Oui, oui, ça me permet, je crois, d'organiser une image. Donc, c'est plus proprement dit du dessin. Il s'agit plus de composition, de savoir pourquoi est-ce que je dessine tel personnage à tel endroit dans cette image, pourquoi un gros plan, pourquoi au contraire un panoramique, pourquoi laisser un espace vide. C'est une réflexion sur l'intelligibilité d'une image qui est pour moi plus importante que le dessin proprement dit.
Est-ce que l'image parle plus que les mots?
Je pense que oui, elle parle plus profondément parce qu'elle touche des éléments qui ne sont pas réellement conscient, comme c'est le cas pour les mots.
Oui, c'est vrai que dans vos récits, il y a beaucoup de cases muettes, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup d'intériorité. Hein, la vie spirituelle, les interrogations de Jonathan passent d'abord par le dessin. Est-ce que il n'y a pas un petit cousinage quand même avec le Corto Maltese d'Hugo Pratt?
Ah bah. Non, pas du tout.
Plus qu'un cousinage.
Mais oui, mais pour moi, c'est un de mes maîtres, un des grands exemples. C'est une révélation de découvrir Corto Maltese. Je sais pas, j'avais peut-être 15 ans, 17 ans. Mais oui, j'ai compris que la bande dessinée pouvait être encore autre chose que ce que j'aimais déjà. Hein, les grands classiques. Et notamment, comme vous dites, les silences qui participent à la narration. Et qui donne, de nouveau, comme pour le blanc en image, le blanc de la neige, ou le noir, la nuit, c'est pareil.
Et donc le rythme, dans une narration, c'est une obsession?
C'est essentiel, et c'est donner au lecteur la possibilité de participer, d'être pas simplement d'avaler tout ce qu'on lui donne, mais de spontanément participer.
Alors on est rarement quand même causé dans de l'action trépidante, sauf peut-être dans une certaine mesure dans les albums qui se passent aux États-Unis, hein, Uncle Howard est de retour au Gresham Island. Ces deux albums-là, avec le recul maintenant, c'est une parenthèse.
C'est une parenthèse. C'est peut-être pas mes préférés, mais j'avais l'impression de me répéter. J'ai cherché à renouveler un petit peu, comme il y avait cette amie américaine Kate dont on a déjà parlé. Eh bien, c'était peut-être le prétexte pour faire une petite variation.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Yongchen Lamo, une voix tibétaine que vous avez évidemment tout de suite reconnue, Kosé, extrait de son album Tibet Tibet qui figure dans la bande-son d'un album un peu plus ancien à la saveur du Songrang, le tome 13 des aventures de Jonathan. L'ultime album, je le rappelle, La Piste de Yeché, vient de sortir aux éditions du Lombard. Alors justement, on a beaucoup parlé des Tibétains depuis le début de cette émission. Je voudrais qu'on dise un petit mot des Chinois, quand même, Kosé, parce qu'ils sont là, ils sont présents, hein, notamment d'ailleurs dans cet ultime album. Vous auriez pu, et certains auraient sans doute aimé, que vous fassiez de Jonathan un militant de la cause tibétaine. C'est pas du tout ce que vous avez choisi.
Non, parce que je pense que la Chine est un pays qui a une culture magnifique, qui est voisine du Tibet. Ça a toujours été un voisinage, parfois avec quelques affrontements. Mais les deux ont toujours coexisté jusqu'à l'avènement de Mao, qui a vraiment, avec la révolution culturelle, commencé par répandre sa folie. C'est le seul terme que je trouve. D'abord en Chine, donc les Chinois étaient les premiers à souffrir de cette pseudo-révolution culturelle, qui était un massacre. Et puis ensuite le Tibet. Mais toutefois, finalement, c'est qu'une minorité de dirigeants du gouvernement de Pékin qui écrase complètement le Tibet. Et j'aime la culture chinoise, j'aime les Chinois, je m'arrange toujours. Je peux pas parler du Tibet aujourd'hui sans mentionner le fait qu'il est, c'est quasiment un génocide qui se produit depuis 1959. Mais toujours, je m'arrange pour placer au moins un personnage chinois foncièrement sympathique pour montrer que c'est juste une histoire de politique.
Et pas une histoire de peuple.
Pas du tout.
Voilà.
Pas du tout.
Bon, il y a le mot libérateur hein, dans l'album qui est écrit avec des guillemets, ce qui est déjà une forme évidemment d'ironie, mais d'ironie peut-être gentille justement. Pas du tout d'ironie militante, d'ironie manichéenne. C'est ce que vous vouliez éviter.
Oui, le manichéisme, surtout pas. C'est le terme. C'est comme ça que les Chinois justifient leur invasion du Tibet libérateur. Ils ont prétendu libérer le Tibet, qui était une société archaïque, c'est vrai. Mais personne n'avait jamais demandé à être libéré. Et il n'y avait pas de prisonniers politiques. Maintenant, les prisons au Tibet sont remplies de prisonniers d'opinion.
Sort également, ces jours-ci, aux éditions Daniel Maguen, causé un artbook. Donc, parallèlement au dernier Jonathan, un artbook intitulé « À l'heure où les dieux dorment ». Alors là aussi...
Dorment encore,
voilà. « À l'heure où les dieux dorment encore ». Alors, c'est très mystérieux ce titre, vous pouvez nous l'expliquer, vous le faites très vite, hein. Il suffit d'ouvrir, on a l'explication tout de suite. Mais bon, comme on est à la radio, je préfère que ce soit votre voix.
Voilà, c'est une citation d'un poème de Sri Aurobindo, un sage indien, voilà, qui commence son poème par « À l'heure où les dieux dorment encore », et ça continue. Moi, j'ai continué en dessin, avec plein de croquis, d'esquisses d'aquarelles, des notes aussi, c'est une espèce de journal de voyage, mais aussi un peu journal intime.
Et qui est cette jeune femme que l'on découvre sur la couverture ?
Alors, c'est un exemple de ces aquarelles. C'est une jeune femme rencontrée au Japon qui étudiait les mangas à Keita University, parce que les mangas s'étudient à l'université aussi,
bien sûr.
Ben, comme la bande dessinée ici. Et voilà, j'ai fait son croquis tout en parlant avec elle lors d'un, ce qu'on appelle un workshop en bon français, où je présentais mon travail. Et voilà, j'ai fait plein de croquis en voyage qui n'étaient pas toujours adéquats pour une bande dessinée, mais là, j'en profite pour montrer tout ça.
Oui, alors, c'est très étonnant parce que ils sont pas classés n'importe comment quand même. Tous ces croquis. Le livre commence par des paysages. Alors il y a des paysages des Alpes valaisannes en Suisse, hein, donc chez vous. Alors, parfois c'est au feutre noir, parfois il y a de l'aquarelle, et puis il y a des commentaires hein, au crayon de papier. Par exemple avec cette question. Combien de passages pour créer un sentier? Voilà, c'est déjà presque le début, le début d'un album, le début d'une réflexion, ou encore, je vous cite, hein, souvent en promenade devant un plan d'eau, face au blanc d'une montagne au loin, je tombe amoureux. Un paysage causé, c'est un peu comme un personnage.
C'est une sensation. Alors, on On peut décider que ça n'est qu'un paysage, ou bien, oui, on peut, pourquoi pas tomber. Pourquoi est-ce qu'on serait obligé de tomber amoureux d'un être humain? Pourquoi pas tomber amoureux d'un paysage?
Alors, il y a aussi des portraits de gens que vous avez rencontrés. Vous évoquez cette japonaise à l'instant. Il y a quelques nus féminins aussi, ce qui pourra peut-être surprendre, mais pourquoi pas. Il y a votre épouse que vous dessinez aussi.
C'est pas mon épouse.
C'est pas mon épouse, mais on pourrait le croire.
On pourrait
le croire. On pourrait le croire.
Une compagne, bien sûr.
Une compagne, mais voilà. Et puis, il y a cette citation. Aussi, une citation de mémoire, vous le précisez, alors je ne sais pas si vous allez vérifier depuis, ce sont des mots d'un écrivain britannique qui s'appelle John Blofeld, c'est l'interprétation de nos perceptions qui nous rend heureux ou malheureux.
Oui, parce qu'il explique qu'en se promenant, il a aperçu une petite tache rouge au pied d'un arbre, il était émerveillé, ça le rendait joyeux, peut-être pas amoureux comme moi, mais joyeux, et puis en s'approchant, il a découvert que c'était un bête déchet plastique. Et il a constaté que cette joie avait disparu. Or, c'était la même perception. Donc, c'est notre interprétation ou notre conceptualisation d'une perception qui nous rend heureux ou malheureux.
Et pour revenir justement à votre travail de dessinateur et à la façon dont vous regardez le monde avec l'œil du dessinateur, est-ce que vous pourriez dire justement que le principal sens d'un dessinateur, c'est la vue, c'est l'œil?
Ah ben ça, évidemment. Mais oui. Mais enfin...
Dessiner, c'est d'abord observer?
Avant tout. On dessine avec le cerveau. La main n'est qu'un intermédiaire, bien sûr. Donc c'est notre vision, si possible, débarrassée des concepts. Ce que j'appelle concept, c'est de penser le nez est au milieu de la figure. C'est un concept, ça. C'est pas forcément exact. Donc pour bien dessiner, il faut oublier ces concepts. Et dessiner ce qu'on voit en oubliant ce qu'on savait.
Alors au passage, il y a aussi évidemment des clins d'œil et des hommages à la bande dessinée. Je voudrais qu'on parle un petit peu de Derib quand même. Hein. Le Sioux qui dessine des histoires, comme ça.
Moi je le nomme Plume qui raconte des histoires.
Voilà, le créateur de Buddy Longway, qui Yakari aussi, qu'on connaît, connaît aussi. C'est lui qui vous a pas vraiment mis le pied à l'étrier, mais enfin vous a donné un gros coup de pouce quand même.
Si, c'est auprès de lui que j'ai appris mon métier, bien sûr. Et ça reste un ami. Mais oui, bien sûr, j'ai appris à faire de la bande dessinée à côté de Derib.
Qu'est-ce qui vous a appris, alors, justement, mais concrètement?
Tout, comment raconter, développer une scène, par combien d'images, pourquoi placer tel personnage de telle manière, sans faire trop de théorie, c'était toujours dans des exemples pratiques, sur ces planches. Et puis, on échangeait au sujet des miennes, de mes essais, et oui, c'est comme ça que j'ai appris mon métier.
Alors toujours à propos de bande dessinée, je voudrais que vous nous commentiez la page 242 de cet artbook que vous avez vous-même nommé causé petit musée personnel. Alors on a une sorte de meuble hein, avec des étagères et sur les étagères il y a des objets qui forcément vont dire quelque chose aux amateurs de bande dessinée et singulièrement aux amateurs de bande dessinée franco-belge.
Bah, évidemment, il y a une maison champignon qui ressemble beaucoup aux maisons des Schtroumpfs. Il y a un avion qui, évidemment, est l'espadon de Blake et Mortimer. Une boîte de conserve avec un crabe aux pinces d'or. Un mur de briques avec une signature M jaune.
La marque jaune, voilà, de Jacobs, toujours Blake et Mortimer.
Voilà. Un oiseau un peu bizarre.
Oui.
Qui provient de Arzac de Moebius, bien sûr. Un chapeau de cowboy et un sombrero, en allusion à Jerry Spring et Pancho. Une fusée à damier rouge et blanc, je vous laisse deviner.
Ouais, bah là, bah évidemment, la fusée de Tintin, Objectif Lune. Et on a marché sur la Lune, elle est iconique aussi, celle-là.
Trop facile. Une casquette de marin, c'est pas Popeye.
Non, c'est pas Popeye, mais on a parlé de lui tout à l'heure. Hein.
Oui.
C'est Corto.
Exact. Un animal jaune avec une longue queue jaune à taches noires.
Oh, voilà, le marsupilami, c'est trop facile, oui.
Et pour finir, une bagnole magnifique, bleue, qui ressemble un peu à une turbine à quatre roues. C'est la turboraction de Spirou et Fantasio.
Voilà, alors ça, c'est très étonnant quand on regarde ça, parce qu'on se dit, c'est quand même très très loin de Jonathan, quoi.
Ah, c'est des classiques.
Oui, c'est des classiques, et en même temps, c'est très loin.
Oui, mais c'est ce qui a bercé mon enfance, c'est ce qui m'a donné le goût de la bande dessinée.
Voilà, alors il y a donc des héros qui sont plutôt donc Tintin, Hergé, donc plutôt édition du Lombard, Casterman, voilà, enfin l'école Tintin, et puis il y a aussi l'école de Marcinelle, quoi. Il y en a beaucoup d'ailleurs de héros de cette école de Marcinelle. On peut, il y a des ponts, c'est la même chose pour vous, parce que quand vous étiez jeune, quand moi aussi j'étais jeune, on avait un peu l'impression que soit on appartenait au club des Tintins, soit on appartenait au clan des Spirou, quoi. Vous faites un pont entre les deux.
J'essaye, mais je vous avoue que j'étais quand même très Spirou.
Pourquoi ?
Mais je trouvais qu'il y avait plus de fantaisie. Dans Tintin, il y avait un petit côté didactique qui m'ennuyait un peu. Mais il y avait, dans le journal Tintin, il y avait des choses magnifiques. Mais voilà, j'aimais bien Spirou. Enfin, il y a quand même Corto Maltese qui est un peu plus actuel.
À la fin de cet artbook causé, vous avez écrit le mot « fin » en lettres jaunes. Et autour du mot « fin », vous avez écrit ceci. « Je me demande s'il existe un endroit où les personnages de fiction se rendent après que le mot « fin » a été écrit. » Et vous ajoutez « un endroit un peu comme une maison de retraite ou un club très privé dont l'entrée serait strictement interdite aux auteurs et aux lecteurs. J'en serais ravi pour eux. » Si cet endroit existe, tout imaginé, si cet endroit existe, causé, qu'est-ce que Jonathan y ferait?
Ah ben justement, on ne sait pas ce qu'ils font, et c'est ça tout l'intérêt pour eux. Donc ils ont la paix, on n'est pas accroché à les observer, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est là où Jonathan va s'installer.
Et s'il resurgissait un jour, Jonathan, sous le crayon d'un autre dessinateur que vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble envisageable ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Non, c'est trop personnel. Alors, il ne s'agit pas de talent. Il y a des gens qui dessinent beaucoup mieux que moi, ce n'est pas la question. Mais c'est vraiment une bande dessinée personnelle.
Jonathan retiré du monde, Jonathan rangé des cases de BD, donc dans cette maison de retraite ou ce club très privé imaginaire. Oui. Et vous-même, Bernard Causé, est-ce que vous allez ranger les crayons et les pinceaux ?
Ah non, moi j'ai envie absolument de continuer. J'ai pas du tout envie d'arrêter, je veux continuer, mais ce sera pas une série. Je sais pas ce que je vais faire, parce que comme d'habitude, à la fin d'un album, j'ai aucun projet, mais je vais prendre le temps de faire ce que j'ai envie de faire.
Et qu'est-ce que vous avez envie de faire ?
Ça sera une bande dessinée. Ça peut ressembler à cet artbook de croquis et d'esquisses aussi. Mais non, ce ne sera plus Jonathan.
Et les livres d'art, est-ce que ça vous intéresse, Bernard Causé ? Parce que dans cet artbook, il y a aussi beaucoup de dessins d'œuvres que vous avez croisés dans les musées, à Barcelone, à Saint-Paul-de-Vence, en Grèce, à Taïwan, au Japon, en Inde. Enfin, c'est extraordinaire que vous passiez votre vie dans les musées.
Il y a quand même quelques années qui ont passé, donc ça doit faire à peu près quelques musées par année, c'est pas excessif, mais oui, ça me nourrit, ça m'apporte beaucoup, ça m'aide à me renouveler et à trouver un nouvel enthousiasme. Ouais.
Et Causé, il aura sa place sinon dans une maison de retraite, mais du moins dans un musée ?
Pourquoi pas ?
Vous avez déjà fait le festival d'Angoulême, c'est un peu un bon début.
C'est un bon début.
Et Grand Prix de la ville d'Angoulême 2017, rappelons-le.
Mais écoutez, ça vient pour toute la bande dessinée, le deuxième dessin animé de Mickey se trouve dans la collection permanente du MoMA. Donc, vous voyez, les espoirs sont permis.
Merci beaucoup, Causé, d'être passé de voir La Piste de Yéché, le dernier de Jonathan aux éditions du Lombard, et donc cet artbook à l'heure où les dieux dorment encore aux éditions Daniel Maguen. Restez avec nous dans un instant. Le journal sur RFI. On se retrouve demain avec Elodie Wallace. Elle est scénariste, autrice et actrice aux côtés de Muriel Robin d'un étrange téléfilm que diffuse demain soir Arte. Il s'intitule Doute et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. RFI, la sélection.